Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode un peu spécial, puisque nous enregistrons IRL chez Hervé Schauer, himself.
Bonjour.
Et nous allons faire... Nous avons à boire, ça s'entend, voilà. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une méthodologie d'évaluation du niveau de sécurité des prestataires de services avec Jean-Philippe Gaulier.
Bonjour.
Et pour discuter de ce sujet, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Vladimir Collat.
Bonjour.
Arnaud Soulier.
Bonjour.
Hervé Schauer.
Bonjour.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Uloa. Alors Jean-Philippe, cette méthodologie, elle a été développée dans quelles circonstances ?
Alors déjà, je travaille dans un grand groupe, je ne le citerai pas, mais je pense que vous le trouverez facilement. Et il s'avère que, comme beaucoup de grands groupes, nous faisons appel à des prestations externes, particulièrement en IT. Et il s'avère que, pour notre part, il y a une grosse partie du budget IT qui part dans ces prestations, hein, c'est à peu près 50%. Et on s'est rendu compte, après plusieurs années, que le rendu, les livrables, hein, par exemple, des prestations, n'étaient pas toujours au niveau de qualité attendu. Du coup, on a essayé, par plusieurs méthodes, d'améliorer cela. Et puis, en 2012, on a créé cette évaluation, cette auto-évaluation, et on y reviendra un petit peu plus tard, pour bencher nos prestataires par rapport à la sécurité. Donc, les prestataires, eux, ne font pas de la sécurité, hein, ils font du développement, de l'hébergement, de l'assistance technique, ou de la régie.
Mal.
Non, pas forcément. Il y en a qui font ça très bien et on pourra parler de quelques retours. Et puis, il y en a qui sont sur une voie d'amélioration.
C'est gentiment dit.
Pour être très concret, il s'avère que quand on nous livrait quelques-uns de nos sites web, il s'avère que lorsque l'on auditait de manière aléatoire, on trouvait régulièrement des failles de l'OWASP, Open Web Application Security Project, qui recense les failles les plus courantes des sites web sur les audits de manière régulière depuis plus d'une dizaine d'années, je crois, maintenant.
Alors, je rappelle à nos auditeurs que nous avons réalisé un épisode sur l'OWASP et que donc cet épisode est à leur disposition s'ils veulent plus d'informations sur cette association, sur cette fondation.
Et alors, fait marquant, et puis alors ça va peut-être faire réagir un petit peu autour du micro ce soir, c'est que, surprise ou pas, en tout cas surprise pour moi, je suis naïf, on va dire, certains fournisseurs nous faisaient payer les corrections de failles. Donc, pour bien resituer la chose, hein, vous donnez un cahier des charges, on vous livre un logiciel, vous faites un audit, vous trouvez des failles de sécurité, et on vous demande de l'argent pour corriger les failles que la société a créées elle-même dans le logiciel. C'est un business model. Donc, on a été motivé par certaines instances étatiques à améliorer de manière intrinsèque notre sécurité. Et du coup, on a essayé, à notre manière, d'insérer de la sécurité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la méthodologie que nous discutons ce soir nous a coûté du temps, de la sueur, mais 0 euro en matière d'investissement. Donc, c'est-à-dire que tous nos auditeurs, à partir du moment où ils ont les ressources disponibles, peuvent le reproduire chez eux. Enfin, c'est sans risque pour les enfants.
Ça t'a coûté le temps
de la sueur,
la personne.
De la sueur et de la personne.
Donc, c'est quand même un certain coût, finalement.
Oui, mais tu n'as pas de cash-out à rajouter.
Oui, mais au final, ça va coûter de l'argent
au
donneur d'ordre.
Oui.
Parce que le donneur d'ordre, il va se retrouver avec des prestations plus chères pour qu'elles soient faites en toute sécurité.
Sauf si tout le marché se met à avoir le même niveau d'exigence.
Et donc là, c'est un appel.
Oui, mais est-ce que tout le monde a besoin de ce niveau d'exigence ? Est-ce que c'est pas limité à quelques très grands donneurs d'ordre ou certains métiers spécialisés ?
C'est une excellente question, Hervé. Est-ce que lorsque tu achètes une voiture, tu as besoin de freins ?
Bah, y a des gens qui achètent la
Tata. C'est même pas ça. Hein. C'est plutôt, est-ce que tu as des freins ? Est-ce que tu achètes une voiture avec des freins qui marchent, tout simplement ?
Ah bah, parfois, tu te demandes si tu as des freins. Hein.
Non, mais voilà. C'est que, enfin, pour moi, c'est presque de la qualité de délivrable. C'était censé avoir.
C'est totalement ça. On parle.
Ce pourquoi tu.
On parle pas vraiment de sécurité. On parle de qualité.
Il y a quand même des gens qui achètent des voitures de niveau de qualité différent.
Oui, mais tu as un minimum en France, par exemple.
Oui, mais tu confonds avec le minimum légal. C'est-à-dire que la loi n'autorise pas de commercialiser un véhicule qui n'aurait pas de frein. Donc à partir du moment où là, tu te places au-delà de la loi, la comparaison me semble peu appropriée.
Ben, ce n'est pas dans la loi aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de vie en jeu, c'est ce que j'allais dire. Mais demain, si c'est le cas, je pense aux objets connectés, n'est-ce pas ?
Et il y a des vies en jeu.
Il y aura des vies en jeu.
Ah ben, il y en a déjà qui meurent.
Ouais, ça c'est...
Donc,
je pense que le parapluie connecté qui te prévient s'il pleut, il n'y aura pas trop de morts. Pareil pour le
non, mais sur connecté, les pacemakers, peut-être.
Oui, le pacemaker, sûrement. Ou ce que nous a présenté Arnaud tout à l'heure,
le pompe insuline.
Donc, si je reprends un petit peu l'historique de ce qu'on a fait dans ma société, bah, en fait, en 2009, on s'est dit, bah, on va rajouter des clauses dans les contrats. C'est à peu près tout ce que les collègues sur le marché font. On a rajouté des clauses. Et puis, en 2012, on a regardé ce que ça avait changé, d'ajouter des clauses juridiques. Et le résultat a été, ben, on avait inscrit des clauses juridiques. Donc de l'encre et du papier, mais pas grand-chose d'autre, puisque le niveau de qualité délivrable était toujours le même.
Surtout qu'en plus, sur tes clauses...
Non, mais c'est vrai aussi que tu mets des clauses juridiques. Moi, ce qui m'a souvent frappé, c'est l'absence de vérification du respect de ces clauses.
Oui.
Lorsque moi, je prenais la peine de lire, je découvrais systématiquement, avec tous mes donneurs d'ordre, que j'étais le seul à lire. Quand je leur expliquais que leurs clauses sur les assurances étaient illégales, j'étais toujours le premier à leur signaler. Quand je leur disais que 1 million d'euros par sinistre, aucun assureur en responsabilité civile professionnelle ne faisait ça, ils me sortaient, bah, écoutez, vous foutez de moi, il y a déjà 14 prestataires qui ont signé. Et je leur dis, bah, regardez, il y a 14 prestataires qui ne respectent pas le contrat. Et moi, je connais un grand compte qui a fait cette vérification et qui est revenu me voir qu'en fait, les trois quarts n'avaient même pas d'assurance en responsabilité civile professionnelle et que ceux qui en avaient bien entendu n'étaient pas du tout assurés pour un montant aussi élevé d'1 million d'euros par sinistre. Mais ça montre à quel point on met des tas de clauses juridiques, mais il ne faut pas oublier que les prestataires derrière, très souvent, ils prennent les risques, ils lisent même pas et ils signent pour avoir le business.
Il n'y a pas que les utilisateurs qui sont d'accord avec ce qu'ils n'ont pas lu.
Mais surtout que tu as même au niveau juridique certains risques qui ne sont pas transférables. Tu prends par exemple de la sous-traitance à l'étranger, suivant la législation du pays, certains de tes risques et de tes contraintes ne sont pas du tout transférables. C'est-à-dire que si ton prestataire fait de la merde, c'est toi qui prends.
C'est normal.
Bah, c'est toi qui as sous-traité. En France, c'est le cas. Tu as un avis de la CNIL en 2014 qui dit que le fournisseur, à la base, à qui le client a confié ses données, est responsable juridiquement de ses sous-traitants et des sous-traitants de ses sous-traitants.
Ouais, c'est le responsable du traitement.
Tu as beau mettre toutes les clauses juridiques que tu veux, effectivement, ouais, si la CNIL te met une amende, c'est pour toi, c'est pas pour ton sous-traitant dans un pays étranger.
C'est effectivement ce qu'ils disent.
Alors, on déborde un petit peu là. Alors, donc, les aspects juridiques, ensuite.
Eh bien, ensuite, comme on s'est rendu compte que ça n'avait pas marché, on s'est dit, on va aider nos fournisseurs à s'évaluer. Et on contrôlera cette évaluation. Et je reviendrai juste après sur les points où on leur a demandé de s'évaluer. Mais vous allez voir que c'est quand même pas révolutionnaire. Suite à ça, eh bien, on a donné des consignes à nos projets pour dire bah, tel fournisseur, vous pouvez les utiliser, tel fournisseur, vous ne pouvez pas les utiliser ou on ne vous conseille pas de les utiliser. Et tel fournisseur est vraiment au-dessus du lot et on vous encourage à les utiliser. Ensuite, en 2014, on a eu ce petit rappel des autorités et la sécurité est devenue le premier critère de sélection dans le référencement, ce qui fait que les fournisseurs ne pouvaient pas être référencés s'ils n'avaient pas le niveau en sécurité. Et ça nous a quand même donné un petit coup de pouce dans notre méthodo.
Ouais, mais c'est uniquement parce que tu as eu un problème avec la CNIL, qu'il y a vraiment eu une histoire, s'il n'y avait rien eu.
C'est parce que les autorités étatiques m'ont filé un coup de main que ça m'a donné la légitimité pour agir.
Sans ça, c'est
certain. Et à la suite de ça, parce que Hervé l'a cité tout à l'heure, on fait un contrat assez bien, mais souvent, c'est pas suivi des faits. Et alors, comme j'aime bien dire ce que je fais et faire ce que je dis, moi, dans le contrat, j'avais marqué... Et dans un an, on se revoit, vous aurez des indicateurs pour moi, et tous les engagements que vous avez pris, on les vérifiera ensemble. Et donc, tous les ans, on se revoit, et si les engagements ne sont pas tenus, ben, on discute un petit peu plus fortement. Et au-delà de ça, et c'est pareil, là, on y reviendra aussi, il y a aussi des audits aléatoires qui sont mis en place. Et c'est un peu le client mystère. C'est-à-dire que 10 jours avant la tenue d'un audit, ma directrice de l'audit informe la société qu'on va débarquer. Et on vérifie au niveau du contrat que ce qu'ils ont signé est bien en place chez eux. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs couches à l'oignon, et c'est cet ensemble de choses qui nous permet aujourd'hui de nous assurer non seulement du niveau de qualité de nos fournisseurs en matière de sécurité, mais également du respect des engagements contractuels qu'ils ont pris.
Ouais, de manière générale, c'est ce que tu fais avec tous tes prestataires, c'est que tu fais une vérification régulière où ils te font du reporting, donc tu te bases sur ce que eux te déclarent, et de temps en temps, une fois par an, tu fais un véritable contrôle où tu y vas et tu vérifies vraiment que ce qui a été déclaré est effectif.
Effectivement, ça c'est la théorie. Moi j'ai eu un retour d'un fournisseur il n'y a pas très longtemps, un gros fournisseur qui m'a dit « Monsieur Gollier, c'est la première fois en 20 ans qu'on me fait appliquer le contrat ». Bah, j'ai dit, ça tombe bien. Alors, au niveau des critères, qu'est-ce qu'on demande? Alors, je vais séparer deux choses. D'un côté, je vais parler de l'assistance technique, la régie. Alors, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, je prends une ressource dans la société de prestation. Elle vient travailler à demeure chez moi. Je lui donne du travail et elle réalise ce travail, mais avec les moyens que je lui fournis. Donc, dans ce cas-là, on lui demande quoi?
Là, il a des objectifs de moyens.
Il a des objectifs de moyens, tout à fait. On lui demande quoi? On lui demande de connaître et respecter nos procédures de sécurité, puisqu'il vient sur site. On lui demande de nous informer en cas de difficulté. On lui demande à ce que l'intervenant soit sensibilisé à la sécurité. Alors, sensibiliser, c'est quoi? C'est, je trouve une clé USB sur le parking, je la branche pas sur mon PC.
Ça dépend. Elle fait plus ou moins de 16 gigas. En dessous de 16 gigas, moi, je la jette.
Je reçois un mail qui me demande mon mot de passe. C'est pareil, je ne vais pas donner le mot de passe. Ça, la sensibilisation, c'est ce niveau-là. Hein. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on pourrait appeler l'hygiène, si on prend des termes un peu consacrés. L'intervenant est formé aux bonnes pratiques de sécurité de son métier. Alors là, c'est fourbe. Parce que là, dans beaucoup de sociétés que j'ai interviewées, on a fait chou blanc. Déjà sur sensibilisation, c'était pas très élevé, mais sur formation aux bonnes pratiques, c'était très absent. Quand je dis ça, c'est quoi? Eh bien, on parlait de WASP tout à l'heure. Le WASP, c'est plutôt lié aux développeurs de sites web. Eh bien, ce qu'on demande, c'est qu'un développeur PHP, par exemple, connaisse les failles qui se retrouvent dans le WASP, connaisse les vulnérabilités du langage qu'il utilise au quotidien, et écrivent du code au moins de qualité, voire sécurisé, si c'est possible. Et ça, c'est pas courant. Ouais,
tu crois pas qu'ils devraient changer de langage?
C'est ce que j'allais dire, changer de langage.
Oui, mais enfin, Java, c'est pareil. Alors, on va finir par descendre sur Go.
C'est pas un mauvais choix. Mais ceci dit, en PHP, si tu fais du Symfony, enfin, si tu dis...
Avec des frameworks, oui.
Oui, voilà.
Des frameworks ou des bibliothèques sécurisées.
Ah, oui. Tu peux bien développer dans n'importe quel langage et tu peux faire de la merde dans n'importe quel langage.
Ah, peut-être pas en Go.
Bon, en tout cas, moi, je soutiens fermement les donneurs d'ordre qui exigent d'avoir des développeurs correctement formés. C'est quand même très très rare de voir cette demande. Et c'est vrai que les populations de développeurs ont rarement droit à des formations, soit autour de la sécurité ou autour de l'intrusion. Et quand tu montres à des développeurs web comment les malfaisants détournent leurs erreurs de programmation, tout de suite, ça fait tilt dans leur tête et ils s'améliorent. Et là, à ce moment-là, tu peux les former à une conception et une programmation meilleure de leurs applications web.
Tu crois vraiment à ça?
Oui, oui.
Oui, j'y crois et j'ai des retours d'expérience, notamment des gens qui font du développement agile, manipulant des bases de données à caractère personnel, qui ont eu énormément d'incidents et qui, après avoir montré aux développeurs comment fonctionnait l'intrusion de serveurs web, d'applications web, on finit après être formé à complètement changer leur comportement. Faut dire aussi que le contrôle qualité a aussi été formé. Mmh. Mais tu divises vraiment par des chiffres ahurissants. C'est-à-dire que tu passes facilement de 40 incidents par an à un seul. Et donc, des développements qui sont faits d'une manière relativement rapide finissent par être programmés très correctement, systématiquement.
Alors, mais moi, je suis d'accord avec Hervé, bien sûr, parce que sinon, je ne demanderais pas ces choses-là. Pour l'assistance technique, donc, il y a encore deux points qu'on demande. C'est qu'il y ait bien sûr un ordre de mission qui soit signé, donc, qu'on soit correct en termes de contrat, et qu'il y ait un suivi des biens qu'on prête, donc un ordinateur portable, une clé USB, une carte à puce, des choses comme ça.
Parce que peut-être... Documents également ?
Non, pas les documents, les biens physiques. Pourquoi ? Parce qu'il a pu arriver que certains matériels ne nous reviennent pas. Donc,
c'est du vol, ça.
Voilà. Oui. Et puis, dernier point là-dessus, c'est une matrice de contact de la société pour que on puisse passer un coup de fil, passer un mail en cas de problème, et que cette matrice soit tenue à jour. Ça paraît bidon quand je le dis comme ça, mais je vous assure que ce n'est pas 100% des sociétés qui arrivent à tenir dans le temps cette matrice. Et je ne parle pas en dizaines d'années, hein, je parle en mois. Le nombre de commerciaux, par exemple, qui quittent l'entreprise et qui étaient les référents, ou de RSSI qui ont changé de poste parce que leur réponse ne suffisait pas à tenir des exigences, par exemple, ça change assez vite. Donc ça, c'est l'assistance technique. Je pense que vous serez d'accord pour dire, on va faire un petit tour de table, que c'est raisonnable.
Oui, oui, c'est raisonnable, oui. Je ne sais pas si c'est applicable dans les faits, mais oui, c'est raisonnable.
Alors, la deuxième partie, c'est le forfait. Et le forfait, c'est l'obligation de résultat. Donc, tout se passe chez le fournisseur, avec ses moyens, ses ordinateurs, son réseau, etc.
Mais avec une obligation de résultat, là.
L'obligation de résultat, c'est qu'on passe une commande, et au final, on veut que cette commande soit réalisée, quels que soient les moyens employés.
Oui, tout à fait.
Dans la stricte limite de la légalité. Je le souligne. Et la première obligation qu'on a mise, hein, c'est une correction sans surcoût et sans délai des failles dont le type est connu avant la recette. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Eh bien, parce que dans notre expérience, on a vu quelques sociétés nous proposer 70 jours pour corriger un XSS.
Ouais, ça, c'est du foutage de gueule, mais...
Ben, c'est la réalité. Hein. J'ai encore des dossiers en cours où c'est plusieurs centaines de jours pour corriger des failles de type OWASP.
Ouais, quand tu as une architecture logicielle qui est vraiment défaillante dès le début, corriger une faille simple, là, tu as quand même des gens qui font du SQL côté client avant d'envoyer au serveur. Là, il faut bien 70 jours pour réarchitecturer la
valeur. Oui, mais ça, c'est faire de l'access.
Non, mais quand toute ton application, je t'en avais parlé, Nico, quand on avait fait un audit là-dessus, quand toute ton application, toutes tes requêtes SQL sont forgées côté client et ensuite exécutées côté serveur, et côté serveur, tu n'as qu'un seul compte qui gère tout, faut réécrire l'application, quoi, et tu ne peux pas faire ça en 5-10 jours. Quoi.
Non, mais tu peux peut-être trouver des principes d'ingénierie qui te permettront de vérifier un certain nombre de choses. Donc,
Non, mais là, tu réécris ton appli. Et le problème, c'est que parfois, tu as des secteurs de marché où il y a un ou deux éditeurs qui font tous la même chose, qui font tous de la merde, et tu n'as pas le choix. C'est presque un monopole. Et si tu veux avoir l'outil, l'application qui te permet de faire ton business, tu es obligé de faire appel à ces quelques éditeurs qui, de toute façon, te font de la merde.
Mais là, tu parles d'un marché très précis. On ne le citera pas, mais...
Non, je pense à plusieurs marchés. Il y a plusieurs marchés qui sont comme ça, hein.
Parce que là, tu parles de BI quand même. Hein.
Pas que,
accéder directement à une base de données, c'est de l'accès. Hein.
Non, pas forcément. T'as pas que le marché de la finance et du bancaire. Hein. T'as beaucoup d'autres marchés où c'est à peu près la même chose.
Toujours est-il que 70 jours pour un XSS,
c'est trop.
Ça pose des questions.
C'est sûr.
Moi, j'ai déjà vu, on m'a proposé autour de 3 jours pour créer un répertoire avec un fichier index, un fichier 404, un fichier 503 et un fichier error.
Mais en même temps, tu as des unités de facturation. Tu peux pas. Personne va te vendre 7 minutes de travail.
Non, mais peut-être pas 3 jours. On leur demande de tester la sécurité des livraisons qu'ils font, donc qu'ils fassent un pré-audit, un pen test, un test de vulnérabilité, et qu'ils documentent leur livraison. Donc on est le rapport à la livraison. La prise en compte de notre classification de l'information, la définition d'un niveau de confidentialité, et chez nous, par défaut, si l'information est confidentielle, eh bien ça veut dire qu'il y a chiffrement et authentification forte pour accéder aux données.
Et ça sous-entend que le donneur d'ordre, lorsqu'il commande l'application, puisse connaître le niveau de classification de la donnée qui va être manipulée.
Tout à fait. On y reviendra un petit peu après en parlant d'analyse de risque.
Ouais, mais que les charges soient claires, définies, mais qu'il n'évolue pas au fur et à mesure du développement.
Et c'est pour ça qu'on a dit, par défaut, si c'est absent, c'est confidentiel. Et donc, vous mettez de l'authentification forte et du chiffrement.
Ouais, conclusion, il faut être donneur d'ordre et pas développeur. Hein, parce que...
La mise en œuvre de l'interconnexion conforme au cahier des charges. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que 100% des candidats nous ont répondu « Oui, mais nos interconnexions avec vous fonctionnent. » Ce à quoi j'ai dit « Ça m'étonne pas, parce que sinon, on serait en train d'en parler. » Par contre, quand c'est la dernière fois que vous avez vérifié votre clé de VPN.
Votre clé de quoi ? Qu'est-ce que c'est ?
Quand c'est la dernière fois que vous l'avez changée, elle est stockée où ? Qui y a accès ? Etc.
Pas dans un fichier Excel qui est sur notre partage de fichiers.
Le contrôle d'accès physique et logique. Alors physique, tout le monde voit bien. Logique, c'est par exemple connaître l'ensemble des accréditations administrateurs dans son Active Directory.
Oh là là, mais ça, personne. Mais personne ne le fait, ça.
Attends, parce que là, il y a quand même deux choses différentes. Il y a la livraison de ce qui va tourner chez toi, mais est-ce que tu étends ça au système d'information du prestataire dans ses locaux qui fait le développement ?
Oui.
Surtout s'il y a interconnexion, j'imagine. Que...
Oui.
J'aime bien ton petit sourire quand tu dis ça.
C'est dommage qu'on fasse de la radio, parce qu'avec la télé, vous verriez la tête d'Arnaud à chaque fois que je dis un point, c'est intéressant. La protection des données personnelles. Et pour protéger les données personnelles, le hic, c'est qu'il faut déjà comprendre ce qu'est une donnée personnelle. Et donc là, en interview, ça a soulevé quelques questions. Nous informer en cas d'incident et mobiliser les ressources nécessaires. Alors, pourquoi on a dit ça ? Bah parce qu'on a vu un jour un fournisseur nous dire « Ah oui, mais c'est pas mon problème. » Donc, on l'a aidé à prendre conscience que c'était son problème. Et puis, avoir des indicateurs et une revue de sécurité annuelle que l'on partage ensemble. Donc ça, ce sont les points que nous adressons.
Et mais du coup, est-ce que tu as toujours des prestataires actuellement ?
Oui, oui, j'en ai beaucoup et c'est un très gros marché. Mais alors, je te donne une petite vision de la fin. Il y a un quart des prestataires qui n'ont pas été retenus sur le référencement. Donc c'est quand même important et je crois que c'est une première sur le marché.
Est-ce que je comprends pas ? Ces prestataires, ils n'ont pas cherché à s'améliorer ?
Alors, ils nous ont tous dit qu'ils allaient s'améliorer, mais certains...
On peut le garder en conclusion, ça ?
Moi, j'ai plein d'autres idées.
Vas-y, je vais répondre. Repose ta question.
Mais ces prestataires, ils n'ont pas cherché à s'améliorer ?
Alors, ils nous ont tous promis qu'ils allaient s'améliorer. J'ai rencontré d'ailleurs un grand nombre de vice-présidents ou de directeurs généraux dans ce cadre-là. Mais il se passe plusieurs choses. Nous avions et nous avons une échelle à quatre couleurs. Noir, rouge, jaune, vert. Au final, nous n'avons retenu les fournisseurs dans notre évaluation qui étaient soit jaune, soit vert. Rouge... Ils sont pas trop loin de la cible et éventuellement avec un accompagnement, ça peut se transformer. Noir, c'était trop de charge pour nous. On aurait bien voulu, mais malheureusement, il faut voir que accompagner des prestataires, c'est pas notre travail aujourd'hui.
Ben non, il faut prendre des prestataires pour ça.
Voilà, on est donneur d'ordre. Donc, on n'est pas là non plus pour améliorer tout le monde.
Le vrai business dans tout ça, c'est d'accompagner les prestataires des grands donneurs d'ordre vers plus de sécurité.
Alors, nous avons... Comment ça s'est passé dans les faits ? Nous avons envoyé un questionnaire à nos fournisseurs qui s'appuyait sur ISO 27001, annexe A, ou plus précisément ISO 27002. Je pense que Hervé pourra nous expliquer grandement ce que c'est. Avec des questions aussi contractuelles, hein, tirées de cette base de bonnes pratiques. On leur demandait de remplir ce questionnaire et de nous fournir les preuves. Ce n'était pas simplement une réponse déclarative, il fallait qu'ils montrent leur politique et éventuellement les preuves de contrôle qu'ils avaient avec les politiques. Donc ça, c'est ce qu'on appelait l'auto-évaluation. En général, cette auto-évaluation était plutôt positive. Ensuite, les petites mains chez nous analysaient le questionnaire. Donc analyser un questionnaire, ça prend entre 1 et 20 heures.
Ça prend combien de temps de le remplir ?
Alors, 5 minutes.
Combien de temps, je ne sais pas. En tout cas, nous, on leur laissait un mois et demi pour le remplir. Et nous, parce qu'il faut lire la politique de sécurité qui t'envoie, il faut lire les plans d'assurance sécurité, en fonction de ce qu'il y a, ça peut être vraiment très très long. Hein. Si tu tombes sur un fournisseur qui est certifié ISO 27001, normalement il a déjà tout ça. Et si tu veux être vraiment correct dans dans ta correction d'auto-évaluation, il faut tout lire.
Et tu en avais des certifiés ISO 27000 ?
Oui, pas beaucoup, mais on en avait quelques-uns, et particulièrement les sociétés indiennes, par exemple. Ouais. Et en France, poussé par cette initiative, on en voit de plus en plus. Donc on faisait l'analyse du questionnaire, et ensuite on faisait un entretien de 2 à 3 heures. Et alors, bon, là, l'entretien était souvent intéressant.
Et tu voyais qui en entretien ?
Alors,
des responsables de la sécurité ?
Tu voyais en général le GAM, c'est le commercial lié au compte de ton entreprise, le responsable sécurité, ou à défaut, s'il n'était pas là, le responsable technique, le responsable qualité, et éventuellement, et ça dépendait vraiment des boîtes et de ce qu'elles pensaient devoir mettre comme ressource, un vice-président, voire le DG.
D'accord.
Ah oui ?
Ah oui, oui, parce que on est une référence importante pour eux. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. Et donc, certaines entreprises se sont vraiment mobilisées. Alors, ce qui se passait pendant cet entretien, c'est qu'on se rendait compte que nos questions étaient parfois incomprises. Et donc, on réexpliquait bien quelles étaient nos attentes et on leur laissait 15 jours pour faire une reproposition. Et là, on relisait, Nicolas, à nouveau, les documents qui étaient envoyés en complément. Donc vous voyez que ça pouvait prendre un peu plus de temps encore. Au final, eh bien, on a une feuille de score. On a des recommandations qu'on envoie aux achats chez nous, aux services sourcing, aux opérationnels, et des suggestions d'amélioration pour le candidat. Les premières suggestions d'amélioration étant embaucher un RSSI et mettez en place une organisation de la sécurité dans votre entreprise, parce que pour un bon nombre, ce n'était pas le cas.
Alors, la question, c'est est-ce que tu avais vraiment une légitimité par rapport à tes achats et tes opérationnels ?
Eh bien, comme
comment est-ce que tu arrivais à pousser ta notation et à leur dire voilà, vous ne devez pas choisir telle et telle personne ?
Eh bien, on le disait en introduction déjà, on a cette assistance étatique qui nous a donné une légitimité au sein de la société. On a fait un travail de longue haleine avec les achats et on se comprend bien, on discute bien ensemble et on se fait confiance aujourd'hui. Donc ça a vraiment été un travail de confiance. Et puis apprendre à parler le même langage, c'est important. Et puis pour les opérationnels, on essaye d'être pragmatique. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour les empêcher de travailler, on est vraiment là pour les accompagner à leur service. Et quand un opérationnel voit ça et comprend ça, et qu'il ne se dit pas « Ah non, la sécurité vient encore pour m'embêter, me dire stop, etc. » Quand ils comprennent que nous, ce qu'on veut, c'est leur faire gagner du temps et de l'argent, bah, tout de suite, ça passe beaucoup mieux.
Mais c'est ça qui est compliqué aussi, c'est leur expliquer ça.
Ah ben bah, ça, il faut gagner des points de charisme.
Non, c'est même pas du charisme. C'est réussir à leur faire comprendre que c'est pour leur bien. Et que quelqu'un qui a jamais eu de problème de sécurité, qui fait travailler que de la régie, que des gens sur site, et donc qui s'en fout totalement de la sécurité de l'entreprise, c'est difficile de lui faire comprendre ça.
Oui, mais alors, bon, moi j'ai un poste de RSSI dans l'entreprise où je suis, c'est aussi mon travail au quotidien d'accompagner ces gens de la production, et on se parle régulièrement, et on voit souvent des problématiques liées à la sécurité, donc au quotidien, ils voient bien les problèmes que leur posent toutes ces petites choses-là. Alors, on a une échelle, je vous le disais tout à l'heure, hein, noir, rouge, jaune, vert. Donc, ça s'appuie sur l'ISO 21827. Hein, c'est le baromètre de maturité SSI proposé par l'ANSSI. Donc, ça sort pas de n'importe où. Et noir, globalement, ça veut dire pas d'organisation globale de la sécurité, pas de culture du risque, très peu de pratiques. Rouge, volonté d'atteindre la conformité, le niveau requis de la sécurité n'est pas encore atteint. Jaune, le niveau requis de la sécurité est atteint, éprouvé. Et puis au-delà, le niveau requis de la sécurité est atteint, prouvé et contrôlé en interne par le fournisseur. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il nous a fallu poser une limite. Aujourd'hui, on a dit en dessous de jaune, pour nous, c'est difficile à travailler. Mais les attentes augmentent et il est probable que pour le prochain référencement, en dessous de vert, il sera difficile pour nous de travailler avec ces sociétés.
Ah, c'est un message pour toutes les sociétés qui sont jaunes actuellement. Dépêchez-vous d'améliorer votre niveau de sécurité ou tout du moins votre documentation.
Alors, on livrait ensuite des cartes de score avec les notes, avec l'auto-évaluation du fournisseur sous une forme graphique, puis notre évaluation comparée à côté, qui était en général moins flatteuse.
Divisée par 3.
Peut-être pas, mais en tout cas, qui couvrait un peu moins de périmètre. Et puis, en commentaire, les axes d'amélioration que nous recommandions. Et bien souvent, on a dit à ces sociétés-là de se faire accompagner par des cabinets de conseil. Hein. Il y en a quelques-uns représentés autour de la table.
Hervé se réveille.
Écoutez, je veux dire, il y en a deux à côté qui sont réveillés aussi. Et puis, on en parle.
La porte d'Hervé est toujours ouverte, il y a de la bière.
Et des formations, et des catalogues de formations.
Alors, les résultats, ça a été quoi? Alors, je vous donne une photo en milieu d'exercice pour que ce soit un petit peu représentatif. Il y a eu 63% de sociétés retenues, donc dans les jaunes et les verts dont je vous parlais tout à l'heure. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il fallait à la fois être jaune ou vert en assistance technique et en forfait. On ne pouvait pas choisir qu'une des choses.
Déjà, ça, c'est problématique, parce que ceux qui font que du forfait, qui doivent être verts sur les deux, ou inversement, enfin, c'est...
Oui, mais il s'avère que le contrat que nous on traitait, lorsque tu le signes, tu as la capacité de faire les deux. Il n'y avait pas de contrat qui disait juste ouais. l'AT ou juste le forfait. En général, quand tu fais du forfait, tu fais de l'AT, mais pas forcément l'inverse. Du coup, si le fournisseur le signe, rien ne lui interdit de faire du forfait, même s'il n'est pas à niveau.
Ça, c'est surtout les grosses boîtes. Si tu prends des petits qui sont spécialisés dans un domaine, eux, ça a plutôt tendance à les impacter.
Le contrat dont on parle là, ce sont des contrats pour des grosses sociétés. Ce n'est pas un contrat pour des sociétés de niche.
Et en plus, c'est des contrats cadres, ce n'est pas des contrats à l'unité.
Tout à fait, ce sont des contrats cadres. Alors, je disais, 63% de retenue, 10% en probation. Et ça, on va y revenir parce que c'est peut-être la partie qui donne le plus d'enseignement. 21% de sociétés non retenues pour le référencement. 4% non retenus pour des raisons qui ne sont pas liées à la sécurité, hein, donc ça peut être toute autre chose. 1% en attente de décision, parce qu'on n'avait pas encore stabilisé les résultats, et 1% où l'évaluation était en cours. Et donc, je vous ai dit 10% en probation. La probation, ça veut dire quoi? Eh bien, ces sociétés travaillaient déjà avec nous, étaient déjà, pour certaines, référencées, et... nous avons choisi de continuer à leur faire confiance tout en leur disant que le niveau de sécurité, la maturité pardon, sécurité où ils étaient n'était pas suffisante pour nous. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a interrompu leur capacité à répondre à tout nouvel appel d'offres. Donc continuer les travaux qu'ils avaient chez nous. Par contre, dès qu'il y avait un nouveau projet, un renouvellement, quelque chose comme ça, ils ne pouvaient pas postuler. Donc c'est une incitation, en quelque part, à pouvoir faire du nouveau business. Donc pas tuer le business en run, par contre, pas de nouveau business. Vous pouvez prendre l'idée d'une source d'eau qui s'assécherait petit à petit, hein. Donc l'eau du lac reste bien, par contre, il n'y a pas de nouvelle entrée, et ça peut s'évaporer petit à petit. Et il s'avère que cette méthode a été quelque peu payante, puisque sur une dizaine de sociétés, il n'y en a que deux qui n'ont pas mis les moyens nécessaires pour atteindre la cible.
Et qui ont vraiment été écartés de tout appel d'offres.
Et qui ont été écartés du référencement. Donc ils ne peuvent plus travailler avec nous aujourd'hui, pour une période de 3 ans.
Ah ouais. Et les freins de ta voiture marchent toujours très bien
Alors écoute, je suis prudent, je prends le métro.
Moi je trouve que c'est véritablement un excellent système. Alors maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de donneurs d'ordre, et c'est ton cas, qui sont aussi des prestataires. Et parmi les grands prestataires, et un de mes principaux concurrents. Et alors, toi-même, en tant que prestataire, tu as réussi brillamment les examens.
Alors, ce qui est intéressant, et après je reviendrai à l'autre côté, qui est aussi comment, une fois qu'on a fait ce référencement, on vit avec les projets. Mais je réponds à ta question. On s'est posé la question, et on s'est dit que si nos concurrents, mais néanmoins amis ou collègues, donneurs d'ordre, mettaient en place ce référencement, forcément, si nous faisons des prestations, nous serions soumis à la même chose. Et donc on a anticipé et nous avons déjà réalisé ces évaluations au sein de la société.
Et alors, t'es de quelle couleur?
Les retours sont intéressants.
Ah, mais on ne connaîtra pas la couleur. De toutes les manières, c'est l'amélioration continue.
C'est ça.
Ça ne peut que d'avoir une meilleure couleur au fur et à mesure.
Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est benchmarké. Et on ne s'est pas dit, on regarde juste l'extérieur, et puis en intérieur, on est nickel. On s'est dit, où est-ce qu'on se positionne par rapport au marché? Et s'il y en a besoin, ce qui n'est pas sûr, comment peut-on s'améliorer?
C'est de l'évaluation 360, comme chez toi, Nico, c'est ça?
Toutes les boîtes se font ça maintenant. Alors, par contre, comment ça marche pour les gens qui ne font pas d'informatique? Parce qu'il y a quand même plein de gens qui utilisent l'informatique, mais qui ne sont pas des informaticiens. Je pense à tous les gens du marketing qui achètent des sites one-shot pour des lancements de produits, des choses comme ça.
Tu parles du shadow IT, hein?
Pas forcément du shadow IT, mais...
Si c'est pas de l'IT, c'est du shadow IT.
Non, mais c'est de l'IT, mais absolument personne dans la chaîne. C'est des gens du marketing qui parlent à des créatifs.
Mais posons-nous la question. Pourquoi les gens du marketing parlent aux créatifs directement alors qu'ils vont utiliser un outil informatique sans passer par la DSI? Peut-être parce que la DSI n'a pas été, à un moment donné, en mesure de répondre de manière agile à ces demandes. Donc, en fait, c'est de l'IT parce que ce sont des sites web, au final, qui sortent. Et ces sites web sont, en général, très enclins à répondre aux attentes de l'OWASP. Je pense que vous en connaissez tous. Donc, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est accompagner le marketing, accompagner les RH, accompagner tous ces gens à qui ou pour qui l'informatique traditionnelle ne répond pas, pour avoir des formulaires, des assistances à la sélection de web, start-up, de choses comme ça, pour qu'elles ne se retrouvent pas à la rue avec toutes les données personnelles des clients à dispo sur le portail. Mais ça fait partie des questions qu'on s'est posées.
Ah, mais donc à cause de toi, il n'y a plus aucune décision qui peut se prendre le dimanche au golf, plus aucun appel d'offres de dizaines de millions d'euros qui peut être décidé comme ça.
Alors, écoute, je ne sais pas si j'ai le pouvoir de remplacer un caddie ou une balle, hein, mais en tout cas, si cela permet une meilleure équité, eh bien, tant mieux. Alors, comment ça se passe dans la vie des projets au quotidien? Parce que là, on a fait le référencement, je dirais presque que c'est la partie la plus facile. Mais Joël le disait tout à l'heure, il me semble, tu as des opérationnels derrière toi. Et comment ça se passe avec eux? Mais en fait, sur les projets, on réalise alors une évaluation de périmètre, une analyse de risque light ou une analyse de risque complète, hein, qui te permet de déduire la sensibilité du projet. Et une fois que tu as fait cette analyse, tu as les exigences spécifiques liées au projet, on en parlait à Arnaud, que tu mets dans ton cahier des charges. À partir de ce cahier des charges et de la sensibilité de ton projet, tu sais si tu peux faire appel à un fournisseur jaune ou vert pour les projets standards, ou uniquement vert, donc un des meilleurs fournisseurs pour les projets sensibles. Et bien sûr, alors, moi j'appellerais pas ça le golf, j'appellerais ça les marchés de niche.
Non, mais c'était une image. Il n'y a pas que le golf, c'est... il y a les clubs de cigares, le club de whisky, le club de machin, c'est pareil.
Vous êtes insupportable, monsieur Collard. ce sont les demandes de dérogation. Pourquoi? Parce que... il y a des compétences particulières, alors je vais dire peut-être du buzzword, mais big data, cloud, les choses comme ça.
Digital,
moi j'aurais dit numérique, mais des compétences qui... cybersécurité, des compétences qui sont encore rares sur le marché, puisque un certain nombre de sociétés, voire de positions étatiques recrutent ouvertement. Même dans le big data. Et il n'y a pas encore de très très grandes sociétés, même si je sais toute l'affiche, mais il n'y a pas encore de très très grandes sociétés qui a 20, 30, 40 ans de recul sur ces domaines-là, contrairement à l'informatique, l'informatique de gestion ou l'informatique
qui a à peine 30 ou 40 ans.
Voilà, oui, mais du coup, tu ne peux pas dire j'écarte cette société qui n'est pas référencée si c'est la seule à vraiment pouvoir, hein. Tu sais, en général, alors je vais citer le Gartner, je sais pas si je peux, mais en général, tu as ton cadran en haut à droite, et je crois qu'une société comme Trend Micro, par exemple, est apparue en haut à droite, c'est pas toujours des sociétés que tu as référencées parce qu'elles essayent d'être innovantes, en tout cas, selon les dires de Gartner. Eh bien, pour ces sociétés-là, on a fait une dérogation qui soit disponible avec un plan d'accompagnement de la société pour s'assurer que la sécurité soit bien prise dans le projet. Donc vraiment, on essaye de border la chose. Et après, parce que ce n'est pas fini, le prestataire doit nous livrer un plan d'assurance sécurité qui explique pas à pas tout ce qu'il va faire pendant le projet pour s'assurer et pour assurer nos exigences de sécurité. Intégrer la sécurité dans le suivi du projet, c'est-à-dire quand il y a des comités de pilotage, prévoir de parler de sécurité, savoir si tout se passe bien, s'il y a des avancements, s'il a bien fait ses audits, etc. Vérifier ses livrables avec des PV d'audit, de revue de code et des actions correctives. Nous devons, nous également, mandataires, et ça a été dit tout à l'heure, faire des audits, puisque la confiance n'exclut pas le contrôle, et communiquer de façon annuelle pour consolider les constats sur la partie sécurité. Et ces constats me remontent, et c'est là où, justement, on en revient au schéma global. Donc, je vous redis comment ça se passe. Vladimir. Non.
Et tout ça à coût constant, bien sûr.
Alors, tu peux imaginer un markup sur la sécurité, mais nous ne demandons pas de sécurité, nous demandons de la qualité. Or, quand on te livre une voiture, tu espères qu'elle a des freins. Et que tu l'achètes avec l'option frein ou sans l'option frein, c'est le même prix. Moi, quand je demande à ce qu'il n'y ait pas de faille au WASP dans mon code, ça me semble naturel. Peut-être que pour toi, ça ne l'est pas. Moi, si, ça me semble naturel.
Si, ça l'est aussi. Mais dans les faits, dans la réalité, malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a un tel écart entre ce que tu demandes et la réalité des choses et les boîtes qui font du dev que...
Donc, nous sommes d'accord que peut-être l'industrie informatique sur le territoire français n'a pas fait les efforts nécessaires et suffisants pour arriver au niveau de qualité attendu à l'état de l'art.
Et encore, en France, je dis qu'on n'est pas si mal loti que ça, mais quand tu as de la sous-traitance à l'étranger, je ne vais pas citer les pays, mais j'ai l'impression que c'est encore pire.
Ah, mais moi, je n'ai pas du tout honte de citer les pays. Enfin, je veux dire, il y a des missions qui sont allées visiter l'Inde.
Je voulais pas en parler. Moi, j'y suis sensible.
Bah, tu voulais pas en parler, je vois pas pourquoi. Non, moi, j'y suis sensible parce que c'est un pays.
Des rafales, Hervé.
Oui, d'accord, je comprends tout à fait. Mais c'est un pays où il y a énormément de certifications 27001. Tu prends les premières lignes de la 27001, il n'y en a pas un seul qui les a respectées. Donc, je veux dire, c'est quand même un pays où il y a un problème. Je veux dire, la certification n'est pas censée être un truc de complaisance, il y a un tout petit minimum. Donc, ouais. On découvre que l'interprétation, la qualité de lecture, même peut-être la capacité à lire correctement, n'est pas la même d'un pays à l'autre. Et donc, on ne peut pas avoir la même confiance. Mais ça, c'est le retour d'expérience du terrain.
Ouais,
on ne peut pas avoir la même confiance. Et il y a des pays où il faut vraiment que tu encadres les choses. Et finalement, il faut que tu les encadres tellement, et ça te coûte tellement cher en encadrement, que ça va moins cher et plus efficace de faire bosser des Français.
Sauf quand, moi je sais pas, de mon expérience d'auditeur, j'ai pas l'impression que les développements réalisés en offshore ou en nearshore soient de moindre qualité que ceux développés en France.
Je confirme. Alors ça, moi je l'ai toujours dit, programmeurs de tous les pays, ça ils sont bien unis, ils programment tous comme des porcs. Donc, non mais écoutez, on a audité des applications russes, égyptiennes, marocaines, françaises, roumaine, chinoise, japonaise. Ah, par contre, les Japonais ont quand même une caractéristique, c'est que quand un blanc qui audite une application japonaise découvre des problèmes, le Japonais se précipite à venir sur place, il essaye de comprendre ce que tu es en train d'auditer, et puis du soir pour le lendemain, il a tellement excité ses copains au téléphone que tu as une nouvelle version de l'application avec les corrections. Ça, c'est quand même assez impressionnant, les Japonais, je dois reconnaître. Mais effectivement, tous les programmeurs ont tendance à tous programmer avec les mêmes erreurs de programmation.
Mais tu veux dire qu'ils ont tous copié Stack Overflow?
Tu connais la blague du gars qui présente un clavier avec les touches CTRL, C et V et qui dit donnez-moi ce clavier et Stack Overflow et moi je vous code tout ce que vous voulez.
C'est Turing Complete.
Alors, si je résume un petit peu ce processus, plus les actions qui vont au-delà. À l'année 0, on a l'auto-évaluation du fournisseur avec le contrôle de notre part. À l'année 1, nous avons une revue annuelle avec ce même fournisseur qui nous doit des indicateurs. Donc c'est par exemple combien de personnes avez-vous sensibilisé, combien de personnes avez-vous formé, quelle est l'étendue de l'authentification forte sur votre parc, quelle est l'étendue du chiffrement sur votre parc. Alors un petit mot sympathique sur l'authentification forte, par exemple, On nous a demandé si une double authentification, c'était une authentification forte. Ben non, on a répondu que c'était une double authentification faible. Autre chose, dans le support, la première fois qu'on l'a créé, on a mis combien de postes ou de parties, pourcentage pardon, de votre système d'information à de l'authentification. Et quand on a écrit notre truc, on se disait authentification forte, ça tombait sous le sens. Et puis on lit le truc, on se dit mince, on s'est planté, il faut qu'on le rajoute. Et ça n'a pas manqué. Au premier retour qu'on a eu, les gens nous ont tous dit « Ah ben on a 100% d'authentification !» Et là on a rajouté « Oui, mais forte !» Ah Donc ça a été intéressant. Donc on fait la remontée avec les projets, c'est-à-dire on dit au terrain « Mais dites-nous comment ça s'est passé !» Parce que bah, nous, on contrôle, on pilote, etc. Mais on n'est pas forcément toujours au plus proche du terrain, même si on essaye de l'être. Donc les projets nous disent, ça nous permet d'influencer et de faire un retour positif quand on peut, négatif malheureusement parfois, à nos fournisseurs pour les aider à s'améliorer. La même chose l'année 2, et puis à la fin de l'année 3, on recommence un référencement. À l'intérieur de ce cycle de 3 ans, le fournisseur a bien sûr une démarche globale pour s'améliorer, et s'il veut changer de couleur, donc s'il estime dans son auto-évaluation hein, passer de noir, rouge, rouge à jaune, jaune à vert, ou à l'intérieur du verre, encore s'améliorer si c'est possible, il a la possibilité de revenir nous voir pour nous redemander une évaluation, mais pas en dessous de 6 mois, parce que vous l'avez compris, c'est un peu de travail. Nous faisons des audits de site aléatoires, c'est-à-dire que 10 jours avant, nous toquons chez eux en disant « Bonjour, dans 10 jours, on sera là », et on vérifie l'application du contrat que vous avez signé. Alors ça, ça fait toujours bizarre, mais c'est intéressant.
C'est bien,
il y a de
le faire.
Très bons retours... là-dessus. Je pense, Vladimir, que je pourrais te filer quelques anecdotes pour ta rubrique. Et nous faisons des audits de recettes aléatoires, aujourd'hui, sur les livraisons, que l'on essaye d'étendre pour devenir des audits de recettes systématiques.
Sur... Quand tu dis audit, c'est quel type de test ?
Alors, test de vulnérabilité.
D'accord.
Concrètement, c'est...
Tu mandates une entreprise, un cabinet d'audit pour faire l'audit à
non.
ta place ou tu
Non, non, ça serait de l'audit systématisé, donc outillé.
Automatisé.
Voilà, pour avoir un certain niveau. À noter que pour le prochain référencement, nous demanderons et nous demandons à nos fournisseurs d'être certifiés ISO 27001 sur le périmètre où ils nous servent.
C'est un sacré business pour les entreprises qui certifient.
Ben,
non, non, c'est un sacré business pour les entreprises qui accompagnent à la certification.
Alors, au-delà du business, si tu veux, ce qui est important pour nous et pourquoi on a fait ça, c'est d'être sûr que toutes ces sociétés avec lesquelles nous travaillons ont pris en considération les enjeux de maturité sécurité et ont un cycle d'amélioration, puisque... Je le rappelle, et peut-être que M. Schauer ne sera pas d'accord avec moi, que être certifié ISO 27001, ce n'est pas forcément avoir un très bon niveau de maturité sécurité.
Ça garantit pas du tout un niveau.
Non, non, ça garantit pas un niveau de sécurité, ça garantit une maturité, parce que tu es quand même dans le cycle de l'amélioration continue.
Bah,
c'est quand même
que
un niveau de maturité 5 au sens des niveaux de maturité CMMI.
Ça veut dire que tu vas t'améliorer, promets de t'améliorer.
Ah non, 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 on certifie pas sur des promesses, on certifie sur des choses qui existent. Par contre, tu peux tout à fait avoir une politique de sécurité entrée de gamme. Mais cette politique de sécurité doit répondre aux exigences et aux attentes des parties prenantes. Or, le grand donneur d'ordre que tu es est la principale partie prenante. Donc, normalement, tu valides la politique et le reste devrait en découler. Ce qui doit te permettre d'avoir un niveau de sécurité minimum répondant à tes exigences.
Bon, quoi qu'il en soit, je pense qu'on fera un épisode sur le Club 27001. Dans les semaines à venir.
Absolument.
Et en un mot commençant, ce n'est pas encore le cas. Donc, pour terminer, et puis après, nous répondrons peut-être aux questions de nos auditeurs, ou des gens présents autour de la table.
Les auditeurs n'ont pas encore entendu, en fait.
Combien de temps pour tout ça ? Alors, du côté des entreprises prestataires, un mois et demi pour répondre aux questions de l'auto-évaluation, 3 heures d'entretien, alors, comptez à Paris le temps de déplacement, et 2 semaines pour compléter l'épreuve. De notre côté, ça nous a pris, pour une centaine de sociétés, 4 ingénieurs spécialisés en SSI, qui avaient des connaissances ou un passif en achat et société de service, donc SS2I, quelque peu motivés, et une moyenne de 2000 heures de travail.
Ça veut dire que tu as pris des gens qui avaient la rage contre leur, les anciennes SS2I par lesquelles ils travaillaient.
J'ai pris des pitbulls.
Et est-ce que cette démarche innovante est éligible au crédit impôt recherche?
Pas que je sache, c'est une bonne question, j'en parlerai à mes patrons. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces 2000 heures, on n'a pas pris en compte ni la préparation du processus, ni l'accompagnement du service achat, hein, tu posais la question tout à l'heure, ou Vladimir, ni l'explication du processus aux sociétés. N'est pas pris en compte non plus les audits, puisqu'il faut compter une dizaine de jours par audit pour une société, ni les audits de recettes des livraisons. Mais pardon, aujourd'hui, on voit les fruits. Hein, donc il faut savoir que les audits peuvent être suspensifs en termes de contrat. Et que les évaluations peuvent te faire augmenter ou diminuer ta note. Donc c'est vraiment très important, lorsque tu viens en revue annuelle, d'avoir préparé et d'avoir bien préparé. Hein, alors toujours sans citer de nom, j'ai eu le plaisir de revoir une société qui est venue me présenter leurs avancées. Et à un moment, ils me disent « Monsieur Gaulier, on a vachement bien travaillé cette année. On est sur un POC d'une PKI. » Je dis « Bah, très bien. PKI, c'est très bien. Mais à quoi ça va vous servir ?» Alors là, je m'attendais à plein de choses. Je m'attendais à signature, authentification, chiffrement, tout ça. Et ben en fait, j'ai pas eu de réponse. Donc, il y a au moins une société qui a investi dans de la PKI sans savoir pourquoi.
Oh, ça finira bien par lui servir à quelque chose. Alors, mais c'est rigolo, les PKI, parce que c'est quelque chose qui revient à la mode, alors que ça marchait plus du tout ces dernières années.
Oui,
et on est à nouveau sollicité pour de la PKI.
Maintenant que le blockchain arrive, on peut dire que la PKI est un échec, n'est-ce pas, Nicolas?
Bah, si tu fais une PKI pour vendre des certificats SSL, oui, tu vas pas gagner beaucoup d'argent. Hein,
non, mais nous ferons certainement une émission sur les blockchains.
C'est en prévision.
C'est trop à la mode.
Et
c'est donc, trop l'avenir.
C'est une petite anecdote marrante parce que ça montre la réalité du terrain. Et alors, je peux vous dire que j'ai vu une des personnes tomber de sa chaise en entretien en se disant « Ah bon, mais on sait pas pourquoi on a travaillé ». J'ai dit « Bah oui, je trouve ça étonnant quand même ». Et ça, c'est tout le temps. Donc ça prouve bien qu'il y a quand même un besoin de grandir, un besoin d'avancer, un besoin de connaître et d'en connaître sur le domaine de la sécurité.
Et ça fait combien de temps, en fait, que ça a été mis en place?
Donc on a commencé réellement les auto-évaluations en 2012 avec un accélérateur en 2014, donc mis en place dès 2012, une grosse revue en 2014, et donc là, on est en 2016, donc on est à la quatrième année, on commence à avoir un peu de recul. Je vois que pour une fois, ça vous laisse sans voix.
Non, moi j'ai une question, mais j'espère que je ne vais pas être désagréable. Mais, et sinon, Nicolas, dans la vraie vie, avec les gens qui finalement n'ont pas tant de vulnérabilité que ça, comment ça se passe? C'est-à-dire, en gros, comment chez Google vous gérez ça? Vos développeurs, le développement, comment est-ce que vous faites pour faire de la qualité, pour ne pas avoir des vulnérabilités
partout?
Non,
mais la réponse est infaillible. Il n'y a pas de prestataire. C'est d'une puissance inouïe, ça.
Quand tu fabriques,
on appelle à de la prestation.
Voilà, mais quand tu es leader dans ton domaine, tu peux pas trouver de prestataires qui font le boulot à ta place puisque c'est toi le leader.
Ça dépend de ton
par
business.
Contre, quand tu mets en place des sites web en PHP, je veux dire, oui, évidemment, tu tapes dans une poubelle, tu as trois prestats qui sortent pour te le faire.
Sur le côté des stagiaires, c'est ça?
Non, mais en fait, la situation est plus complexe parce que même des leaders font appel à des prestataires. Aujourd'hui, on n'est pas architecte. On n'est pas dessinateur, on n'est pas, même si on a des designers extraordinaires chez soi. Donc on a quand même des informations de valeur qui appartiennent à un grand donneur d'ordre, Google ou un autre, qui sont détenues par des tiers. Non mais, je veux dire, quand tu fais faire des petites voitures miniatures de ta future voiture, tu as le plan de ta future voiture qui nécessairement fuit en Chine. Et donc il faut maîtriser cette information. Et donc, tout le monde est obligé d'avoir à un moment donné des prestataires et à devoir gérer l'information. Donc, concrètement, même Google est confronté à cette situation, dans certains cas très particuliers, parce que Google, jusqu'à preuve du contraire, se fait construire des bâtiments et n'est pas son propre cabinet d'architecte. Or, l'architecture d'un bâtiment, ça peut être hautement confidentiel.
Non, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas autant de vulnes que chez les autres ? chez Google, parce que pour faire la revue d'actu avec
Arnaud, maîtrise de la communication.
Ça, je peux parce
qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de...
Comparativement,
non, mais attends, quel est le problème aujourd'hui qui fait peur des grands prestataires?
En dehors d'Android et de Google Chrome.
Non, non. En dehors d'Android,
qu'est-ce qui très peu
si tu prends toutes les applications web, parce qu'on parlait de développement, surtout d'applications web, etc. Si tu parles de développement d'applications web chez Google, il n'y a pas tant de vulnérabilités que ça.
Il
n'y
en a pas plus.
Enfin, Office 365, chez Google, ils développent eux-mêmes, ils ne sous-traitent pas les développements.
Non, mais revenons-en à la base. On a parlé d'applications web parce que c'est ce que tout le monde comprend. Mais la question se pose également, en tout cas pour nous, sur l'embarqué, sur le mobile, etc. Je pense qu'une des vraies réponses hein, que ni Nicolas, ni, et encore plus surprenant, Hervé a avancé, c'est le niveau de formation et de qualification des gens qui réalisent les choses. Je ne sais pas combien d'entretiens, je pense que c'est 4, la moyenne chez Google, pour rentrer. Google, de mémoire, c'est 80 000 ou 90 000 personnes à travers la planète.
Hein. Non, moins.
Moins que ça. Et les tests de sélection sont drastiques. Je crois que c'est 1 million de CV qui reçoivent par an.
Oui, mais si tu regardes, moi, il y a des sociétés françaises du CAC 40, elles te font passer 8 entretiens pour rentrer. Hein.
Mais pas sur des postes techniques.
Pas sur des postes de développeurs.
Ah oui.
Tu chercheras en ligne une présentation très intéressante sur l'intérêt d'avoir une code base monolithique où tu as 4 milliards de lignes de code au même endroit. Et en fait, c'est aussi un des facteurs. Parce que la sous-traitance d'un logiciel, tu la vois par le biais des librairies, en fait. Mm-hmm. À chaque fois que tu as une faille, c'est quoi? C'est libc, c'est le moteur PHP, c'est libxml, c'est OpenSSL. Donc, dès que t'as, en fait, dans une application moderne, tu as 99% du code, c'est des librairies,
c'est du
Java SDK, etc. Et toi, tu fais juste la glue entre des composants. Si tu vois une stack trace Java, où est le code écrit par le développeur?
Donc, la prochaine fois que tu croiseras un développeur, tu lui dis bonjour, UU.
Non mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est ça, hein. être développeur, t'as plus de temps à perdre à tout réinventer, à tout redévelopper. Tu te bases sur des briques existantes.
Moi j'ai connu beaucoup de développeurs qui avaient du mal à coller les briques ensemble. Les vulnérabilités que nous on trouve en audit par exemple sur des applications standards, c'est pas des vulnérabilités inconnues sur un composant logiciel standard, c'est plutôt le développeur qui, lorsqu'il affiche le prénom de l'utilisateur, affiche également sans les encoder les caractères HTML. C'est ce niveau-là, ouais. c'est ça qu'on voit en vrai.
Alors pour conclure, Hervé, tu avais des idées de conclusion?
Pour conclure, je pense qu'on est au début d'une organisation que tout le monde devrait adopter. Et si aujourd'hui, il n'y a que quelques donneurs d'ordre qui ont peur sur leur obligation de déclaration de fuite de données à caractère personnel, eh bien, je pense qu'à terme, absolument tout le monde sera obligé d'adopter le même type de système vis-à-vis de ces nombreux prestataires.
Alors, ce qu'on peut aussi dire, c'est que vous travaillez dans un groupe qui est intéressé par cette méthodologie, contactez-moi et avec plaisir, on vous la partagera.
Bon, eh bien, l'appel est lancé. On espère que cet épisode vous aura intéressé. Et on vous dit à très très bientôt pour un nouveau podcast. Salut.
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 Au revoir.
Salut.
Au revoir.